es le centre de ma joie. Ce qui est bon et parfait vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, tout ce dont j'ai besoin. Jésus, tu es le centre de ma joie. Lorsque je me perds, ta parole me ramène. Tu es la chaleur quand mes nuits sont longues et froides. Dans l'angoisse, tu es le soutien qui chasse mon inquiétude. Au lever du jour, encore tu me tends la main. Jésus, tu es le centre de ma joie. Ce qui est bon et parfait vient de toi. La source de mon bonheur, tout ce dont j'ai besoin. Jésus, tu es le centre de ma joie. En toi, les choses simples deviennent toutes si merveilleuses. Tu es la mélodie qui m'accompagne tous les jours. J'entends la voix des enfants, de mes amis, de mes parents. Tu es le début et la fin de mes plus grands rêves. Jésus, tu es le centre de ma joie. Tu es la source de mon bonheur, tout ce dont j'ai besoin. Jésus, tu es le centre de ma joie. Tu es le centre de ma joie.
Amen. Alléluia, le diable est en colère. Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Ah, hier après-midi, je préparais ce sermon et j'étais dérangé tout le temps, à gauche, à droite, tout ça. Et ce matin, quand j'ai relu les notes, je me suis dit, oulala, mais il y en a qui vont penser que je prêche par rapport à ce qu'ils sont venus me dire. Non, non, non. En fait, les quatre dernières pages de mon sermon, là, sont ce que j'ai écrit après avoir été dérangé sans arrêt pendant mon sermon. Il faut arrêter ça, s'il vous plaît. Bon, à moins que ça soit très, très grave, mais il faut me laisser tranquille le samedi après-midi, s'il vous plaît. Donc, voilà, c'est vraiment une inspiration que Dieu m'a donnée pour vous ce matin. Ce n'est pas un trucage, un règlement de compte, pas du tout. Que Dieu vous en convainque par le Saint-Esprit. Amen. Donc on va lire Ésaïe chapitre 30, verset 21. C'est un texte que j'ai trouvé dans, vous savez, le petit calendrier que Rachel nous offre chaque année, qui est dans la cuisine, mais qui est aussi chez nous, qui est, je crois, dans plein de chambres. Et je l'ai trouvé et j'ai été contrôlé dans la Bible, parce que ça me semblait bizarre que ce soit écrit comme ça. Et vous allez voir que c'est bizarre. Je lis Ésaïe 30, 21, mais pas dans la version seconde. Dans la version Darby, qui est bien meilleure. Alors, voilà ce que ça donne. Verset 21. Que vous alliez à droite ou que vous alliez à gauche, tes oreilles entendront une parole derrière toi disant, c'est ici le chemin. Marchez-y. Comment c'est écrit dans votre version? Lisez-moi ça. Vas-y, toi qui as une grosse voix, Francis, lis-le à haute voix.
Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le marchez-y. Ça vous, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche.
Vous voyez comment c'est différent? Ça ne veut pas du tout dire la même chose. C'est pourquoi il faut toujours avoir plusieurs versions des Écritures. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Je vais vous parler à ce sujet ce matin. En tout cas, une chose est certaine, c'est que Dieu parle à ses enfants, mais il parle au moment qui lui semble bon. Et il parle à sa manière. Bon, les révélations, c'est une réalité. Mais elles viennent à la manière de Dieu et à son calendrier. Ce n'est pas nous qui imposons à Dieu quand il va nous parler et comment il doit nous parler et encore moins ce qu'il doit nous dire. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, c'est vrai, c'est écrit, nous l'avons constaté, mais nous avons aussi constaté qu'il y a des gens qui, malheureusement, prennent leur pensée pour la pensée du Saint-Esprit parce qu'il n'y a pas d'ordre dans leur vie. Parce qu'ils ne respectent pas les principes. Dieu est un Dieu d'ordre, c'est-à-dire de principe, et s'il a fait une fois comme ça, il ne va pas changer. Il ne va pas changer pour vos beaux yeux. Ce qu'il a fait autrefois, il le fait encore aujourd'hui. Donc si vous n'entrez pas dans le processus correct, eh ben, vous risquez de vous tromper gravement. Vous savez, si vous jouez au golf, vous avez la petite balle là, et puis vous faites le mouvement, paf, et la petite balle, à la place d'aller dans la direction du trou, elle va dans les temps plus loin. Ceux qui ont déjà joué au golf, ça vous est déjà arrivé? Pourquoi? Alors vous faites une fois, deux fois, vous vous exercez, vous vous concentrez et tout. Mais ce qu'il faut, c'est faire ce qu'il faut faire. Et c'est au millimètre près qu'on doit taper la balle. C'est pas n'importe comment. C'est au millimètre près. Parce que la balle, elle est ronde. Si vous tapez là, elle va aller dans une certaine direction. Si vous tapez un millimètre à côté, elle va aller dans une autre direction. C'est comme pour mes pieds. Si je marche comme ça, c'est bon. Mais si je fais un centimètre, eh ben je me dirige complètement ailleurs. Vous comprenez? Il faut rester dans le processus imposé par Dieu, sinon on se fourvoie, on se trompe. Et alors, ça peut être très religieux, mais très faux. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et plus que jamais, aujourd'hui, Dieu parle à son peuple qui est sur la terre, parce que c'est le temps du rétablissement de toutes choses. Donc, Dieu parle. Acte 3, 21 nous dit que c'est le rétablissement qui a été annoncé par les prophètes d'autrefois. C'est aujourd'hui que ça arrive. Les apôtres, ils avaient déjà conscience qu'il y avait besoin d'un rétablissement, puisque alors que Jésus était en train de les enseigner, juste après la résurrection, ils lui ont demandé, « Seigneur, est-ce en ces temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et puis Jésus leur a répondu, « C'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Vous trouvez ça dans Actes 1, 6, 7. Mes frères et sœurs, c'est à nous que revient de connaître les temps et les moments. Le prophète William Branham a été envoyé. Le septième ange d'Apocalypse 3, 14 a été envoyé. Il nous a montré comment lire les temps. Il a mis en rapport Apocalypse 2 et 3 et Matthieu chapitre 24 avec les sceaux. Il a annoncé des choses qui étaient, si vous voulez, ces choses étaient scellées et il les a révélées. Elles étaient scellées depuis qu'elles avaient été écrites, mais déjà avant elles avaient été scellées, puisqu'elles avaient été scellées déjà du temps de Daniel 12, 10. Ces choses sont aussi écrites dans Daniel, mais elles étaient scellées. On pouvait les lire, mais on ne pouvait pas les comprendre, parce que ça n'est pas avec l'intelligence, ce n'est pas en faisant un échafaudage humain qu'on y arrive. Plusieurs seront purifiés, nous dit Daniel 12, 10, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun méchant ne comprendra, mais ceux qui ont de l'intelligence comprendront. Qui sont ceux qui ont de l'intelligence? Ce sont ceux qui auront été purifiés et blanchis et éprouvés. Les méchants ne sont ni purifiés, ni blanchis, ni éprouvés. Vous allez me dire, ils ont des épreuves? Oui, mais pas dans le même but. Pas dans le but d'être préparés à entendre la révélation de Dieu. Dans la même période, dans ce milieu du XXe siècle, précisément le 29 novembre 1947, le livre d'Enoch, qui était scellé depuis le temps d'Enoch, est réapparu Pas n'importe comment, parce que Dieu ne fait pas les choses n'importe comment, Dieu est un Dieu d'ordre. Il est réapparu le jour où les Juifs ont reçu officiellement leur part en Israël. Saviez-vous ça? Si vous ne le saviez pas, c'est que vous n'avez pas lu mon livre. C'est une curiosité. L'État d'Israël reprend vie, ses Écritures reprennent vie. C'est bouleversant. Et le sceau qui empêchait la compréhension de ce livre est maintenant brisé. Et ça, c'est arrivé en notre temps. Enoch avait prophétisé et il avait dit que, enfin, je peux vous le lire, c'est dans Enoch 1, 2, « Ce n'est pas pour la génération présente, mais pour une génération éloignée que je parle. » Or, mes frères et sœurs, la génération la plus éloignée qu'on peut trouver, c'est la nôtre. Vous allez me dire, oui, mais il va me dire d'après. Non, 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 il ne va pas me dire après. Parce que Jésus revient. Parce que Jésus revient. Et là, il s'adresse à ceux qui sont dans l'époque du retour de Jésus-Christ. Bien sûr qu'il y aura des générations après, mais ne seront plus concernées par le message. C'est notre génération qui est concernée par le message. Quel message? Le message de Daniel, le message de Jean dans l'Apocalypse, du prophète Branham, septième ange, d'Enoch. C'est toujours sur la déposition de deux ou trois témoins que les choses viennent. Il faut respecter cet ordre. Or, ce n'est pas par l'intelligence animale, c'est-à-dire l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, ça fait des merveilles, mais ça ne saisit rien au sujet des choses de Dieu. Ce n'est pas par l'intelligence humaine que ces choses pouvaient être comprises. Elles ont été scellées par Dieu, c'est par Dieu que les sceaux doivent être brisés. C'est par le Saint-Esprit. Par l'esprit de révélation qui est confirmé par des interventions miraculeuses qui témoignent de l'authenticité des révélations. C'est toujours comme ça que Dieu a fait et c'est encore comme ça que Dieu a fait. J'en veux pour preuve Marc chapitre 16 verset 20. Les apôtres allaient et ils prêchaient et Dieu confirmait que ce qu'ils disaient était vrai en faisant des miracles. Amen. Alors, il y a quelques principes donc qu'il faut connaître. Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu est un Dieu de principe, et Dieu communique principalement par ses prophètes. Il ne communique pas avec les docteurs, il ne communique pas avec les pasteurs, il ne communique pas avec les évangélistes ou avec les qu'est-ce qui reste encore? Il communique avec les prophètes. Les prophètes sont ses porte-parole, et ensuite, une fois que le prophète a parlé, les quatre autres ministères se saisissent de cela parce qu'ils reconnaissent l'esprit de prophétie et ils enseignent ces choses. Et ils font la promotion de ces choses. Mais la parole vient au prophète. Si Dieu fait comme ça, une fois, il ne va pas changer son système. Quand Jésus, qui était la parole incarnée, est venu sur cette terre, il n'est pas allé au temple pour être reconnu. Il est allé au bord du Jourdain parce que là, il y avait un prophète. Et le prophète a dit, « Ah, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est lui. » Il l'a présenté et après ça s'est répandu. La parole vient toujours au prophète. Mais Dieu communique aussi avec tous ceux qui cherchent à apprendre de lui pour une direction concernant leur vie. Dieu ne parle pas qu'aux prophètes pour pouvoir leur dire des choses qui concernent la vie de monsieur et madame tout le monde. Je vois en Afrique, il y a beaucoup de prophètes. Quand je fais des conventions, il y a toujours un ou deux prophètes ou prophétesses qui sont mis dans une salle à part. Ils appellent ça la chambre haute. Et puis, il y a la queue devant parce que les gens vont tous pour écouter un conseil de la part du prophète. Alors, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je dois faire un voyage ou je ne dois pas le faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je répare mon toit ou pas? Qu'est-ce qu'il faut? Des trucs comme ça. Puis le prophète, il dit, ainsi dit le Seigneur. Puis bon, il peut y avoir du vrai dedans. Je ne veux pas juger ces pauvres gens. Mais ça me fait penser un petit peu à Madame Irma. Vous savez, on en voit de moins en moins, hein, tu sais, Madame Irma avec leur caravane. Il y en avait une au boulevard des Italiens, je crois, elle n'est plus là, hein, vers la poste elle était, elle avait sa caravane là, c'était marqué Madame Irma avec la boule de cristal, puis, mais ça me fait penser un peu à ça, c'est un peu les voyants des chrétiens actuels, ils aiment ça. Mais pourquoi? Les prophètes ne sont pas là pour ça. Les prophètes sont là pour rétablir la parole, pour dire la parole pour notre temps, pour montrer quelles sont les paroles qui sont écrites là, et en quel temps nous sommes véritablement, est-ce que nous avons affaire avec? Qu'est-ce que Dieu dit là, maintenant, tout de suite, pour nous, maintenant? Pas pour une personne, mais pour un groupe de personnes, pour une autorité. Pas pour savoir si tu dois acheter des melons ou des pastèques. Excusez-moi, mais j'en connais, hein. J'en connais, on en a eu des gens comme ça qui disent, ah, j'ai prié ce matin avant d'aller faire mon marché pour que tu me diriges afin que je trouve les meilleurs melons. Et le Saint-Esprit m'a dit, tourne à gauche, tourne à droite. Et tout. Je suis arrivé devant les meilleurs melons du monde. Avec ma femme, on s'est regardé, on a dit, bon, on ne va pas faire long feu avec. Hein. Bon, parce qu'il y a un dérèglement déjà dans l'intelligence. Il faut qu'il prie pour recevoir le don de l'intelligence. Dieu communique avec tous ceux qui cherchent à apprendre de lui pour une direction pour leur vie personnelle. Donc Dieu communique avec tous ses enfants, avec tous les membres de son Église. Ça, c'est certain. Mais nous devons savoir comment ça se passe. L'Esprit s'adresse à nous au moment qui lui semble bon et à sa manière. Beaucoup ne comprennent pas ce principe et ils se trompent, ils sont trompés par leur chair, c'est-à-dire par leur intelligence humaine. Ils prennent leurs pensées pour les pensées de Dieu, ils prennent leurs échafaudages pour un ainsi dit le Seigneur, et puis par des esprits religieux contraires. Ah, les mauvais esprits sont ravis de trouver cette sorte de personne qui est toujours en train de parler à Dieu pour demander ceci, pour demander cela, une direction pour ceci, pour ça. Ah, ils se précipitent au guichet pour venir donner des réponses bidons. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a un manque d'intelligence, donc manque d'intelligence spirituelle, etc., etc., ce qui fait que ce sont des gens... Regardez par exemple, Raphaël, c'était pas un homme avec un intellect très développé, mais c'est un homme droit. Et beaucoup, beaucoup de gens ne sont pas droits et ils voudraient que Dieu leur parle comme ça, presse bouton. Non, mais c'est quoi ce cirque? Il faut oser dire les choses. Moi, tant pis si je ne suis pas populaire. Il faut dire les choses pour protéger ceux qui veulent être protégés. Puis les autres, s'ils veulent continuer à se faire rouler dans la farine par les démons, ben, qu'ils y aillent. Ils croient que lorsqu'ils sont prêts, quand ils se sentent prêts, lorsque cela leur convient, qu'ils peuvent faire appel au Seigneur et recevoir une réponse immédiatement et de la manière précise dont ils ont demandé, à laquelle ils s'attendent. Ben non, c'est pas comme ça, mes frères et sœurs. Les révélations ne s'obtiennent pas comme ça. Il y a quelque chose de fondamental dans toute recherche en vue d'une révélation. C'est se souvenir, premièrement, qu'une révélation, c'est très sacré. Vous vous rendez compte, c'est Dieu qui parle. Nous ne pouvons pas venir à la légère, nous devons d'abord faire preuve d'un engagement sérieux. Ça va peut-être en étonner plus d'un, mais quand je dis il faut faire preuve d'un engagement sérieux, je veux dire aussi que si vous ne faites pas preuve d'un engagement, c'est-à-dire de faire tout ce que vous pouvez faire par vos propres efforts et par votre propre jugement, la révélation ne sera pas donnée parce que Dieu ne verra pas que vous êtes vraiment impliqué dans la chose, que vous êtes vraiment intéressé, que vous êtes passionné, que vous êtes quelqu'un de réel, que c'est quelque chose de profond. Pour être en condition, il faut aussi servir, travailler et savoir supporter les épreuves. Dieu ne va pas donner des grandes choses à quelqu'un qui n'est pas capable de les porter. Je me rappelle de la sœur Camélia, que plusieurs ici ont connue. Et je disais, Camélia, j'aimerais bien avoir ton don, ce don que tu as, de révélation comme ça. Et elle me dit, ah non, prie jamais pour ça, mon frère, mon fils. Je dis, mais bon, pourquoi ma mère? C'est trop lourd à porter. Mais elle avait bien raison. Elle avait bien raison. C'est lourd à porter. Et ces gens qui ont des révélations sur Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, oh, qu'est-ce qu'il est bavard. Quelque chose qui ne joue pas. Continuez de servir, continuez de travailler, supportez les épreuves. Dieu vous éprouve pour vous rendre fort, pour changer votre mentalité, pour que vous soyez quelqu'un de solide. Tout ça, ce sont des moyens importants pour pouvoir être qualifié afin de recevoir des révélations. Si vous étudiez les Écritures, vous allez voir que la plupart du temps, les révélations données aux enfants de Dieu sont données quand ils sont en mouvement, qu'ils sont dans une action déjà soumise à Dieu, soumise de cœur à Dieu. C'est ce que Dieu dit à Ésaïe le prophète dit, que vous alliez à gauche ou à droite, en fait, ça veut dire, quand tu te mets en mouvement, quand tu te mets en marche, à gauche ou à droite, eh bien alors tu vas entendre une voix qui va te dire, c'est pas là. Tu comprends? Mais si tu ne bouges pas, si tu es un passif qui dit « Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi », il ne parle pas aux siens quand ils sont assis chez eux à attendre que le Seigneur leur dise quel est le premier pas à faire. Jamais. Jamais. Cette voix qui est derrière vous, derrière nous, c'est la parole qui projette une lumière sur notre sentier et qui nous montre quelle est la direction. Mais il faut déjà être sur le sentier. Il faut déjà être sur cette parole. Il faut déjà être en marche. Si vous n'êtes pas en marche, la lumière ne va rien éclairer du tout, sinon vos pieds, vos panards, et c'est tout. Mais quelle est la direction? On a des fois des choix à faire, ça nous semble difficile, mais si déjà vous vous engagez, hop, le Seigneur va vous dire, non, c'est pas comme ça, non, c'est pas de ce côté. Et il va vous diriger. Rappelez-vous des apôtres qui voulaient aller dans tel et tel lieu, et le Saint-Esprit les en a empêchés, ils ont dû aller ailleurs. N'est-ce pas écrit? Tout ça est la vérité. Jérémie, le prophète, disait, il n'est pas au pouvoir de l'homme qui marche de diriger ses pas. Jérémie 10, 23. Ce n'est pas dans notre pouvoir. Pas de marcher. C'est dans notre pouvoir de marcher. Mais de diriger nos pas. Ce n'est pas dans notre pouvoir. Si vous voulez diriger vos pas, vous allez vous gourer une fois sur deux, au minimum. Il vaut mieux vous mettre en marche en étant à l'écoute. C'est un exercice de la foi. C'est un exercice. Ça s'apprend. Le secret, c'est donc de faire des pas de foi, d'aller de l'avant en obéissance, en soumission à ce qu'on a déjà compris des Écritures, et alors, on se met à diriger nos pas. Vous voyez? Vous vous souvenez de 2 Chroniques 20-20? Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas tellement ce que ça signifie. Dans 2 Chroniques 20-20, il est dit, « Si tu veux être affermi, confie-toi dans l'Éternel. » Bon, tous les chrétiens se confient dans l'Éternel. Mais si tu veux réussir, confie-toi dans ses serviteurs, les prophètes. Alors vous avez des tas de chrétiens qui sont affermis, mais qui ne réussissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils disent, moi, je ne veux pas me confier dans l'homme. Eh bien, c'est tout faux. C'est une fausse croyance. Faut oser le dire. Tant pis si après on va dire je ne sais quoi sur ce que je viens de dire. Je m'en fous complètement. La Bible dit que si tu veux être affermi, tu dois te confier en Dieu. C'est-à-dire, premièrement, ce que tu décides, ce que tu désires, ce que tu veux, il faut que ça soit conforme aux Écritures. Et ensuite, s'il y a tellement de choix devant toi qui s'offrent pour une direction, ceci, cela, dans ta vie personnelle, eh bien, tu demandes à Dieu, et si tu n'as vraiment pas de réponse, parce que c'est quelque chose de très important, et puis que Dieu juge que tu n'as pas les épaules pour pouvoir soutenir ce qu'il est en train de te dire, eh bien, confie-toi dans ses prophètes. Amen. Excusez-moi, c'est simplement quelqu'un qui insiste et voilà, le téléphone. Donc, nous devons faire tout ce que nous pouvons faire en nous confiant au Seigneur pour obtenir la révélation, parce que Dieu a son propre calendrier et son propre système. Vous savez, il suffit de réfléchir. Il suffit de réfléchir pour devenir humble. Est-ce qu'il est nécessaire que vous alliez embêter le président de la République pour quelque chose qui concerne, par exemple, l'agriculture? Non, il y a un ministre de l'agriculture. Il y a des anges qui s'occupent de ça. Il y a des anges qui s'occupent principalement de la guérison. Il y a des anges qui s'occupent principalement de la protection. Il y a des anges qui... Mais les chrétiens ignorent ces choses-là. Vous connaissez les archanges? Lisez Enoch, vous aurez toutes les révélations là-dessus. C'est pas compris, les anges... Mais quand on confie notre sort à l'Éternel, il remet ça dans la main des anges qui travaillent à leur rythme, quand il faut, quand ils peuvent. Rappelez-vous de l'homme de Dieu qui disait, mais j'ai prié. Oui, oui, t'as prié, mais nous on avait notre boulot de l'autre côté. Vous rappelez l'ange qui dit ça? On n'a pas pu parce qu'on avait un boulot terrible à finir et puis maintenant on est venu. Dieu est omniprésent, Dieu pourrait le faire, mais Dieu délègue. Il a un système. Et vous voulez que Dieu en personne se vienne vers vous pour vous arranger vos melons et vos pastèques? Non, ça va pas. Il y a tout un système, ce qui nous apprend la patience et toutes ces choses-là qui font de nous des êtres mûrs, qui glorifient Dieu au sein des épreuves. Mais finalement, l'ange est venu, mais c'était au bon moment. Quand l'ange est venu, c'était le bon moment. Vous vous rappelez, je crois que c'était Daniel, non? C'est pas Daniel, l'histoire qui est arrivée là? Il était retenu, ou Ézéchiel, 21 jours, l'ange était retenu. Pardon? C'était qui? Il était occupé ailleurs avec un roi qui faisait des bêtises dans un coin. Ouais, tu t'en rappelles, hein, Robert? Maintenant, comment, si par exemple on veut On veut absolument rencontrer le président de la République. On veut absolument, on dit, oh non, 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 moi les anges, c'est bien, moi je veux... Bon, alors, on veut inviter le président de la République. Comment on va faire? Pour l'inviter au château, supposons on veut l'inviter au château, on veut faire une grande fête, réunir tous nos amis, les amis de nos amis, qu'est-ce qu'on va lui écrire? Est-ce qu'on va lui écrire en lui disant, la date du 28 septembre, c'est la date que nous avons choisie pour votre venue? Hein? Ou est-ce que nous allons lui dire que nous aimerions qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela et qu'on pose nos conditions dans cette... Non, c'est pas comme ça, bien sûr, on va pas écrire comme ça. On va plutôt l'inviter avec quelque chose dans ce genre. Nous serions très heureux de vous recevoir quand cela vous conviendra. Hein? Et puis, au moment où ça vous conviendra, vous pourrez, nous espérons que vous nous direz quelques mots, ce que vous voudrez, etc. On va pas lui dire ce qu'il doit nous dire. Hein? Et ensuite, on écrit que, une fois que nous aurons reçu une réponse, eh bien, nous promettons de tout organiser, le programme, à sa convenance, et que nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour qu'il soit bien reçu. C'est pas comme ça qu'on écrirait? Alors, si on fait ça avec François, ça serait pas logique de faire ça aussi avec Dieu? Combien de gens parlent à Dieu comme si c'était eux-mêmes le Seigneur? Nous n'avons pas à être surpris, mes frères et sœurs, qu'un enfant de Dieu ne soit pas en position de dicter ses conditions et imposer à Dieu un calendrier pour une communication avec la plus haute autorité de l'univers. Dieu, ce n'est pas un copain de banlieue. Le principe que le Seigneur a révélé à ses enfants, c'est « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Cherchez et vous trouverez. » Ça veut bien dire qu'on doit se mettre au travail, ça veut bien dire qu'on doit réfléchir, ça veut bien dire qu'on doit penser, ça veut bien dire qu'on doit se bouger. Sinon, on ne trouve rien. Demandez et vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Ça veut dire que vous pouvez peut-être passer quelques instants derrière la porte après avoir frappé. C'est pas toc, toc, toc. Ah, bonjour, mais entrez, j'ai que ça à faire. M'occuper de vos melons. Dieu n'est pas un pote de banlieue. C'est notre Seigneur sur son trône élevé. Amen. Et puis, qu'est-ce que vous avez en vue? Si vous n'avez pas en vue que sa gloire, alors là, mes pauvres enfants, ils discernent vos cœurs, ils voient tout. Hein? Mais si vous n'avez en vue que sa gloire, votre être, votre âme, votre corps même sera rempli de lumière et vous serez à même de comprendre tout. Ça veut dire quoi de comprendre tout? Ben, ça veut dire vous serez même capable de comprendre qu'il ne veut pas vous recevoir au trône, qu'il vous délègue un ange. Vous serez capable de comprendre que ben il refuse ce que vous lui demandez. Oui, vous serez capable de comprendre que même il y aura des catastrophes qui vont s'en suivre. Voilà. Si vous avez en vue sa gloire uniquement. Vous voyez qu'il y a des règles. C'est pas si simple. C'est comme nous d'ailleurs. Nous ne sommes pas très très simples. Quand on voit les gens, on pense... Moi, j'ai toujours tendance à penser que les gens sont comme moi. Pas vous? Et puis après, je m'aperçois en discutant 5 minutes, ah ben non, ils ne sont pas du tout... Et puis, c'est... alors que, oh, qu'est-ce qu'il est complexe, qu'est-ce que c'est compliqué, oh là là, sa façon de parler, il faut presque un décodeur, des fois, avec certaines personnes. Mais on est tous différents, c'est très complexe. Et avec Dieu, c'est pas un pote, oui, Seigneur, j'ai besoin de ça, mon Dieu, révèle-moi, qu'est-ce que... Non, attendez, non. Le peuple juif, il devait se sanctifier pour s'approcher de la montagne. Ensuite, il devait se sanctifier pour approcher du tabernacle. Et puis, la moindre des choses, c'est d'être décent quand on se présente à Dieu. Non pas à cause de sa conscience, il s'en fout de votre nudité, il la connaît votre nudité. Votre nudité physique, il la connaît, votre nudité morale, il la connaît, votre nudité spirituelle et intellectuelle, il la connaît. Mais c'est à cause de la nôtre, de notre conscience. Nous sommes conscients d'être déchus et nous avons conscience de notre besoin de se conformer à la loi de la décence devant notre Dieu, c'est-à-dire à une humilité respectueuse des principes. Vous voyez, mes frères et sœurs, beaucoup de gens s'arrangent avec les choses de Dieu
Ah ben non, moi c'est, je pense que. Ah oui, non, ben non. Non, oui, non, je sais, mais non, non. Ben, il faut que Dieu me le dise. Ben, attends, c'est écrit. Oui, non, mais oui, c'était il y a 2000 ans, faut que Dieu me le dise à moi. Vous voyez, il y a un manque de respect, un manque de. Oui, de respect. Si Dieu a parlé une fois, il n'y a aucune raison qu'il dise le contraire. Tous ces principes s'appliquent à toutes les communications avec notre Père Céleste, à toutes les communications. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le pouvoir ni le droit de forcer les choses spirituelles. J'ai lu quelque part cette jolie phrase. C'était quelqu'un qui arrivait devant Dieu et qui disait, Oh Dieu, je n'ai pas regardé par le trou de la serrure, de la porte, de la salle, du trône. J'ai frappé à la porte et j'ai attendu. Et ça, mes frères et sœurs, c'est quelque chose qui est oublié dans les milieux charismatiques. On a une bande de sales gamins qui crient, qui braillent. Maintenant, il y en a même qui se roulent par terre. On a oublié les vertus du silence, de l'attente respectueuse, de la méditation, de la contemplation. On est des gens pressés. On est conforme au siècle présent. On veut tout, tout de suite. On veut, quand on a mis notre dîme, récolter au centuple tout de suite. Sinon, on se permet de mettre en doute. Ouais, c'est pas comme ça. Ben oui, c'est comme ça. La plupart du temps, c'est comme ça. Ah oui, mais moi, alors non, moi, je comprends pas. Qu'est-ce qui fait Dieu et tout? Mais quoi, c'est quoi cette façon de parler? Et puis, il faut savoir que nous devons nous rendre attentifs. Parce que sa manière, à lui, c'est pas de parler dans des coups de tonnerre, c'est très rare, ou dans des éclairs fulgurants, c'est très rare. Ce que l'Écriture nous montre plutôt, c'est que Dieu parle dans un murmure doux et léger, 1 Roi 19, 12. Et beaucoup ne comprennent pas ce principe. Ils cherchent de grandes manifestations. Et ils n'arrivent pas à reconnaître les murmures doux et légers, les chuchotements du Saint-Esprit qui s'adressent à eux. D'ailleurs, comment pourraient-ils entendre les chuchotements du Saint-Esprit? Ils n'arrêtent pas d'hurler. Et puis, comment ils pourraient entendre les chuchotements du Saint-Esprit? Ils n'arrêtent pas de parler, de parler, de parler, de parler, et de parler, et de parler. Moi, il y en a quand ils commencent à prier, mon Dieu, je me dis, mais c'est... bon, je regarde la montre. Avec certains, il faut regarder un calendrier, hein, quand ils se mettent à prier. C'est long, mais comment voulez-vous que Dieu leur parle? C'est terrible. Les vertus du silence, savoir attendre derrière la porte après avoir frappé. Frappé, on vous ouvrira, on va vous ouvrir. Voilà. Vous avez frappé, c'est bien. Attendez maintenant. Attendez dans le silence. Attendez. Il est bon pour le jeune d'attendre en silence le secours de l'Éternel, Lamentation de Jérémie, chapitre 3. N'est-ce pas écrit? Il est bon d'attendre dans le silence. Quel enfant hurle en parlant à son professeur à l'école? Je suis sûr, tu hurles toi quand tu parles à ton professeur? Non, tu hurles pas. Hein. Quel enfant normal désirerait avoir un professeur qui hurle pour enseigner? T'aimerais pas ça, hein? Un professeur qui vient puis qui hurle comme ça. Quel enfant normal refuserait de garder le silence devant un professeur qui parle doucement? Je dis bien quel enfant normal. Êtes-vous normaux? C'est plutôt rare que Dieu parle fort, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que la pureté n'a pas besoin d'artifice. Peut-être, oui, avec certaines personnes, oui, il a besoin d'artifice, comme par exemple Balaam, il a eu besoin d'un artifice. Il a eu besoin que Dieu lui parle au travers d'une ânesse. Ouais, c'est quand même énorme. Moi, si Dieu me parle au travers d'une ânesse, j'arrête de prêcher. Hein, je dis non, non, si j'en suis réduit là, quelle horreur! Je suis vraiment le roi des crétins, c'est fini, j'arrête. Là. Seigneur, pardon, je me retire, je donne la place au premier venu. Hein, non, non, non. C'est énorme. Mais si vous êtes en état de grâce, purifié par le sang de Jésus, il s'adressera à vous comme un papa qui s'adresse à son fils ou à sa fille. Et quand la voix de Dieu s'adresse à nous, ce n'est pas forcément audible. Ça peut l'être, mais ce n'est pas forcément audible. C'est une voix de conscience à conscience, d'esprit à esprit, une voix apaisante. C'est un témoignage approbatif du Père qui nous tranquillise au sujet de la direction à prendre. Ça éclaire notre intelligence. elle peut être troublée par le doute, elle peut être troublée par la peur, et puis tout à coup, alors que nous sommes en prière respectueuse, n'ayant pas oublié de nous sanctifier, n'ayant pas oublié d'être décent devant notre Dieu, d'être humble, eh bien, dans cette position de grâce, alors, oui, il peut parler par la paix. Par la paix. La révélation, la voix qui parle derrière vous, alors que vous êtes en train de marcher, cette voix, même inaudible, elle apaise la conscience. Elle dissout la peur quand c'est Dieu qui parle. J'ai remarqué que les révélations nous apprennent aussi que être instruit par le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qui arrive dans la passivité. Souvent, Dieu communique avec nous qu'après nous avoir vu étudier le sujet qui nous préoccupe. Et puis étudier le sujet qui nous préoccupe. Alors quand vous parlez avec les gens, Sandrine se rappelle quand on vendait Herbalife, on rencontrait des gens qui nous disaient, vous savez, j'ai essayé tous les régimes. Non, c'est pas celui-là qui va marcher. J'ai tous essayé, ça n'a pas marché. Pourquoi vous croyez que celui-là va marcher? Ah oui, vous avez essayé tous les régimes. Lesquels? Ben, si vous pouvez nous en citer trois, hein? Tu te rappelles, Sandrine, c'est pas la vérité? Tous les régimes. Alors quand quelqu'un vient vous dire, mais j'ai cherché, j'ai prié, j'ai fouillé, j'ai... Ah ouais, j'aimerais bien voir ça. En général, ouais, ils ont passé une heure ou deux à lire deux, trois trucs concernant à peu près le sujet, puis voilà. Puis... Aïe, 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 j'ai essayé tous les régimes. Dieu, en général, communique avec nous qu'après avoir vu notre saint intérêt au sujet de la chose qu'on lui demande. Et sa voix, là, elle vient pour confirmer. C'est une confirmation apaisante au sujet de ce que nous avons trouvé quand nous avons cherché. Voilà pourquoi il ne suffit pas de frapper pour qu'on nous ouvre, mais il faut d'abord chercher. Amen. Et il confirme quand il ouvre la porte. Souvenez-vous des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Quand Jésus leur parlait, c'est écrit que leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Et ça, c'est un bon signe. Le signe que notre esprit est en communion avec Dieu, que du Dieu qui explique, du Dieu qui révèle, du Dieu qui apaise. Ils étaient dans la tristesse, ils étaient dans la confusion, ils étaient dans le désarroi. Et puis voilà qu'ils entendent des choses qui les a... Leur cœur brûlait, puis c'était quelque chose qui renaissait en eux. Et voilà ce que fait la voix du Seigneur quand il vient nous parler. Et puis, les enseignements de l'esprit se manifestent parfois par nos sentiments. Encore faut-il qu'on soit bien réglé dans nos sentiments. Parce que si vous êtes quelqu'un de déréglé dans vos sentiments, c'est très difficile que Dieu ne va pas vous parler au travers de vos sentiments si vous êtes quelqu'un de déréglé. Parce que il va éviter de le faire pour la simple et bonne raison, pour que vous soyez certain que c'est lui qui vous parle. Il va vous parler autrement que par vos sentiments. Moi, je suis un garçon très émotif. Vous n'allez pas me croire, mais je pleure devant la petite maison dans la prairie. Bon. Vous connaissez la petite maison dans la prairie? Je ne regarde plus, je pleure à chaque fois. Je ne regarde plus, je suis émotif. Donc voilà. Eh bien, Dieu ne me parle pas par mes sentiments. J'ai même trouvé un mot génial. Je dis les sentiments. Voilà. Donc je ne veux même plus que Dieu me parle par les sentiments, parce que je peux être trompé par les sentiments. Je peux prendre pour réel quelque chose qui ne l'est pas. Hein, la petite maison à la prairie, c'est pas réel. Ben, ça me fait quand même pleurer, ça touche mes sentiments. Donc, j'en veux plus. Dieu me parle autrement. Et Dieu va vous parler autrement. Si vous êtes quelqu'un d'émotif, si vous êtes quelqu'un d'un petit peu, comme moi, déséquilibré sur les sentiments, Dieu va vous régler petit à petit au cours de votre vie. Maintenant, ça va mieux. Hein. J'ai quand même 63 ans, je pleure plus devant les pubs, Coca-Cola. Mais il va vous parler autrement, de façon à ce que vous soyez certain que c'est sa voix. N'y ait aucun doute. Mais sentir le feu du Saint-Esprit qui brûle, c'est une bonne chose. C'est bien ce frémissement, comme Jésus, quand c'était écrit, il frémit en son esprit. Mais c'est pas forcément physique. C'est souvent simplement un sentiment de paix, de bien-être, de sécurité, de bonté. Voilà. On se sent bien, mais c'est pas nécessairement toujours le Saint-Esprit qui fait ça. C'est pourquoi méfiez-vous quand même avec les sentiments. C'est pas toujours très, très, très bon. Alors, comprenez aussi que les révélations que Dieu donne ne sont pas fréquentes. Ça n'est pas fréquent. C'est comme les miracles. Ça ne serait plus des miracles si c'était tout le temps. La parole écrite de Dieu doit nous suffire dans la plupart des cas. Vous voyez ? Dans la plupart des cas, la parole de Dieu doit nous suffire. C'est sûr que la parole de Dieu ne va pas vous dire si vous devez prendre l'appartement numéro 27 dans la rue numéro 6 ou l'appartement 26 dans la rue numéro 30. Ça, il n'y a rien dans la Bible qui dit de le faire. Mais ça, c'est pas des, on ne va pas demander ça à Dieu. On réfléchit, on pense. Et je m'aperçois que beaucoup de gens ne pensent pas. Combien de personnes en ville, dans des appartements, on dit « Ah, vivement la retraite, on va fiche le camp à la campagne. » Ils fichent le camp à la campagne, ils arrivent à la campagne, ils sont tout contents, et puis ils deviennent vieux. Ils sont loin des pharmacies, loin des magasins, loin de tout, et puis celui qui ne conduit pas, ben, il est embêté, il s'oblige. C'est des problèmes, ils n'ont pas réfléchi. On vient vieux, on ne peut plus aller vivre à la campagne. C'est avant qu'il fallait y aller, mais ce n'est pas possible non plus quand on a un travail à la ville. Mais il faut réfléchir, et beaucoup de gens ne réfléchissent pas. Mais c'est vrai, c'est les cas, c'est courant. Je dis que les gens qui prient pour que le Saint-Esprit les guide immédiatement pour toutes les petites choses de leur vie se mettent à la merci des mauvais esprits qui vont les guider sur quelque chose qui n'est pas bon. Eux, les mauvais esprits, sont toujours prêts à répondre à nos requêtes. Ça les fait marrer. Ils aiment semer la confusion. Ça les fait rigoler. Ce sont des esprits religieux. Il n'y a pas que le diable qui se déguise en ange de lumière. Il y a toutes sortes d'esprits malins. Il y a même simplement des esprits farceurs. Ils voient quelqu'un qui prie mais qui est un peu benêt. Ben voilà, ils vont lui glisser une idée. Et puis... Les personnes les plus troublées dans les églises sont celles qui cherchent des révélations personnelles pour tout et tout le temps. Alors ça, c'est rigolo, vous voyez. C'est un pasteur qui m'appelle pendant que je suis en train de prêcher. Il y a encore quelqu'un qui n'a pas tellement réfléchi, il faut croire. Les personnes les plus troublées dans les églises sont celles qui cherchent des révélations pour tout le temps et qui veulent une révélation, qui veulent que ça soit immédiat. Elles sont troublées. Déjà, dans leur être normal. Elles ont besoin d'être rééquilibrées. Et pour être rééquilibrées, elles ont besoin d'être éprouvées, d'écouter un serviteur de Dieu, de se soumettre afin de prendre le pli. Un pantalon, pour faire le pli, il faut que ça chauffe. Eh bien, il faut faire le pli. Une fois que le pli est fait, c'est bon. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que ça chauffe. Ils veulent que ça aille tout facile comme ils veulent eux. Ils ne veulent pas passer par l'ordre établi par Dieu, ce dont je vous ai parlé ce matin. Ils veulent éviter toutes ces choses-là. Ils veulent aller directement au trône de la grâce, pensant que c'est comme ça qu'on fait. Dieu est omniprésent, il n'y a pas de problème, il peut me recevoir en même temps que tous les autres. Ben non. Oui, Dieu est omniprésent, il pourrait vous recevoir en même temps que tous les autres, mais ce n'est pas comme ça qu'il fait. C'est bizarre, hein? Quand on supplie au trône de la grâce, on ne doit pas le faire pour quelque chose sans importance. Il faut avoir cette humilité. C'est un principe important que je vous donne là. Dieu nous a donné une intelligence pour qu'on réfléchisse. Il nous a donné sa parole qui nous donne des tas d'exemples comment des serviteurs et des servantes de Dieu se sont débrouillés devant des cas qui étaient des fois beaucoup plus importants que ceux que nous rencontrons dans notre vie. Et si nous prions sans cesse pour être guidé, c'est une bonne chose, mais une fois que l'on a prié pour être guidé, nous ne devons pas nous attendre à la révélation permanente, c'est-à-dire après avoir demandé, nous devons croire que nous sommes dirigés. C'est tout. Sans signe, sans sentiment, sans émotion, sans voix, sans rien, mais simplement reconnaître Dieu dans notre vie. Seigneur, je t'ai confié mon sort, je crois que tu ne me laisses pas tomber. Ça, c'est la foi pure. Amen. Vous croyez ça? De toute façon, avant de demander, si vous avez bien compris ce que je vous ai dit, vous avez d'abord dû réfléchir avant de demander, et puis vous avez dû vous sanctifier. Déjà, ça prend du temps. Et très souvent, c'est pendant qu'on réfléchit et qu'on se sanctifie que tout à coup, la lumière apparaît, avant même qu'on ait demandé. Un peu comme cette femme qui est venue l'autre jour à l'imposition des mains dans la file, et quand elle est arrivée devant moi, elle dit « Ah, mais je suis déjà guérie !» Elle était guérie dans la file, dans ce moment d'attente. Les moments d'attente dans le silence. Ayez ces lieux secrets, comme disait notre frère Arthur, un lieu secret dans lequel vous attendez les réponses de Dieu. Vous attendez la bonté de Dieu qui se manifeste dans votre cœur. Ayez ce lieu secret, dans le silence. Et puis il y a les visions, et puis il y a les voix qui se font entendre à travers le voile. Tout ça, ça existe. Mais ces expériences sont exceptionnelles, mes frères et sœurs, exceptionnelles. Nous, quand ça arrive, en général, les gens à qui ça arrive ne le chantent pas sur les toits. C'est exceptionnel. Mes frères et sœurs, ce qui rend témoignage à notre esprit, ce n'est pas tellement ces événements. Je dirais que c'est plutôt le processus. C'est ça qui rend témoignage à notre esprit. C'est un peu comme la nouvelle naissance. Dieu prend l'exemple de la nouvelle naissance parce que c'est quelque chose de magnifique. Moi, je suis né à midi le 5 février 1950. Voilà, c'est un moment précis. Je ne suis pas né graduellement. Mais il y a quand même eu un moment où je suis né. Mais il y a quand même eu un processus. Avant de naître, il s'est passé quelque chose, non? Bon. Et puis après cette naissance, à midi le 5 février 1950, il y a eu encore des degrés. On est de nouveau par la lumière se fait. Et comme on est illuminé, alors on croit, ah oui, alors on est des véritables illuminés. On croit tout comprendre. Mais on n'a pas, après on doit naître de connaissance. Après on doit naître de justice, de désir de justice. Et le désir de justice, on l'obtient en respectant les commandements au sein des épreuves. Et tout ça, ça fait que l'homme spirituel se développe et devient apte à recevoir des révélations importantes. Dieu ne parle pas de la même manière avec un bébé spirituel et avec un homme fait, c'est pas vrai. Ça ne veut pas dire que Dieu ne parle pas au bébé spirituel. Ça ne veut pas dire que Dieu dit rien de nouveau au bébé spirituel, pas du tout. Ça ne veut pas dire que Dieu va rien dire de très important au travers d'un nouveau converti, c'est pas ça que je dis. Mais je dis que ça reste exceptionnel, d'accord ? Il faut que la personne apprenne l'humilité avant de pouvoir recevoir ça sur ses épaules. L'humilité doit trouver sa place dans cette histoire. Le Saint-Esprit nous accompagne, il nous guide, il nous parle, c'est vrai, mais nous devons apprendre à écouter dans le silence, nous devons apprendre à lui parler correctement, comme je vous ai dit au sujet de la lettre au président, hein, et nous devons apprendre à nous comporter, comment se comporter avec lui. Vous savez que par exemple, Chirac avait gaffé avec la reine d'Angleterre, il y a un protocole, il ne l'a pas observé, il a gaffé. On en parle encore. Et je suis sûr que, bon, quand on est jeune converti, puis qu'on gaffe devant Dieu, ça fait rire les anges, mais quand c'est un vieux crouton comme moi qui met les pieds dans le plat devant Dieu, mais ça ne les fait plus rire les anges, ils sont outrés. Mais on ne pense pas à ça. Il y a une hiérarchie, il y a un ordre. Il est le roi des rois, il n'est pas un copain de banlieue, comme je disais tout à l'heure. Il faut apprendre à se bien comporter devant lui. Mais il est certain que si nous observons l'ordre établi par Dieu, alors vous allez commencer à faire toutes ces choses que j'ai dites, c'est-à-dire aller à droite ou à gauche. Et là, pendant que vous serez en marche, vous pouvez en être certain. La voix du Saint-Esprit vous dira... C'est ici le chemin. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Je te prie Jésus que ces choses, ces idées que j'ai mises là sur ces papiers que j'ai donnés à mes frères et sœurs ce matin, les aident à être mûrs spirituellement. Je voudrais une nouvelle race de chrétiens. Je ne voudrais pas retomber dans ces trucs de pentecôtistes qui sont tellement... Tu les as tellement bénis, mais ils sont restés tellement des bébés. Je te demande, mon Dieu, que tu nous aides à nous manifester d'une façon plus mûre. Je te demande, Seigneur, que nous soyons des gens qui te glorifient, qui puissent montrer la lumière, expliquer aux gens qui sont désireux de véritablement te rencontrer, te connaître et marcher en communion avec toi. Je voudrais que nous soyons ces lumières-là. Mais avant de pouvoir être ces lumières-là, je te demande, Seigneur, que tu nous façonnes et que ces paroles que j'enseigne puissent façonner mes frères et sœurs afin que tu puisses leur parler, que tu puisses leur révéler des choses, que cela devienne des choses importantes, ça fasse partie de leur être réellement et qu'ils puissent être non seulement des gens qui parlent de toi, mais qui parlent de ta part. Merci Jésus. Amen.